Est-ce la bonne décision? Trop tard pour moi. Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi énergie-climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Bonjour Agnès Benassi-Kerry.
Bonjour Nicolas Dos.
Bienvenue, sous-gouverneur de la Banque de France, professeur à l'École d'économie de Paris et à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Sylvie Matera, bonjour.
Bonjour.
Senior advisor du cabinet de conseil et d'audit Mazars. Vous me direz comment vous voyez les premières baisses de taux. Il y en a certains qui disent c'est la Nouvelle-Zélande. Non, c'est la Banque Nationale Suisse. Oh, la BCE va taper avant la Fed. Tout le monde a sa petite idée, son petit scénario, le moment où chacune va commencer à dégainer son desserrement de politique monétaire. On aime ce petit jeu de FM Business. Robin Rivaton, bonjour.
Bonjour.
Vous avez des bonnes dents pour aller chercher des logements, Robin?
On essaye.
Directeur général de Stonal, fondateur de Real Estate et membre du conseil scientifique de la Fondapol, vous avez publié Sourions, nous sommes filmés aux éditions Alpha. Mon impression, et vous connaissez le sujet à propos de MaPrimeRénov', c'est vrai qu'on va retirer 1 milliard d'euros sur le 1,6 milliard d'augmentation qui était prévu pour cette année. Le budget est supérieur en 2024 comparé à 2023, mais il est amputé 1 milliard d'euros. D'après ce que j'ai pu voir, Robin, les crédits prévus en 2023 n'avaient pas été entièrement consommés par rapport à ce qui était rendu accessible. Et à l'évidence, les crédits 2024, même amputés 1 milliard d'euros, ne seront probablement pas non plus totalement consommés. Parce qu'on manque de professionnels agréés, parce que c'est complexe de monter son dossier MaPrimeRénov', et qu'en plus, la version 2024 de MaPrimeRénov', qui est vraiment intéressante quand on fait de la rénovation intégrale, eh bien, crée un reste à charge important pour les ménages, et on redoute que finalement la demande de MaPrimeRénov' recule. Est-ce qu'on a raison de s'émouvoir du milliard en moins sur MaPrimeRénov' si de toute façon les crédits n'aurait pas été intégralement...
Oui, non, je pense que ce sont des cris d'orfraie. On essaye de jouer à se faire peur en disant que c'est un recul du gouvernement sur l'ambition de la transition énergétique. Vous l'avez dit, aujourd'hui, le passage de la ce qu'on appelle la rénovation geste par geste, donc je change mes menuiseries ici, je change mon système de chauffage ici, je change mon isolation ici, à une rénovation globale dans laquelle on veut que tout soit fait en même temps. Et c'est la seule qui crée de la vraie efficacité. Hein. On a eu beaucoup d'études microéconomiques et c'est notre prix Nobel, hein, Esther Duflo qui pointait il y a un an, tout pile, quand elle a fait sa leçon inaugurale au Collège de France fin janvier dernier, qui pointait un certain nombre d'études microéconomiques qui ont montré que la rénovation énergétique, malheureusement parce qu'elle contient ce qu'on appelle l'effet rebond, donc un effet Jevons, ce qui fait que quand les gens ont isolé leur logement, ils ont tendance à augmenter la température moyenne de leur logement à des rendements qui sont relativement faibles, même sur très longue période. Et donc, c'est un outil qui n'est pas inintéressant, c'est pas non plus la panacée absolue, la rénovation énergétique. Je pense que il vaut mieux produire de très bons logements de très bonne qualité que parfois rénover des logements qui sont des zones totalement sans perspective de futur, sans perspective économique, qui sont très éloignées des centres d'activité, donc les gens vont faire des trajets de la mobilité carbonée entre les deux. Donc ce qu'il faut, c'est de se dire, en tout cas le milliard en moins ne va pas impacter l'ambition de la transition environnementale.
C'est pas mal de remettre l'église au milieu du village là-dessus, parce que alors qu'est-ce qu'on a? Alors évidemment, il y a eu des reculs sur l'écologie punitive avec les agriculteurs, et là, ça a été considéré comme le grand renoncement finalement à la transition. Si j'élargis le sujet, mesdames, et je me tourne vers vous, allez, Agnès Benassi-Kerry, 10 milliards d'euros d'économie, on sait même pas si c'est du net ou du brut. On sait même pas si à l'arrivée, c'est 10 milliards d'euros, c'est vraiment du net, parce qu'on tient compte de ce qu'on a donné aux agriculteurs, 400 millions d'euros, à l'hôpital, 500 millions d'euros, à l'hébergement d'urgence, 120 millions d'euros, voire les nouveaux crédits promis pour l'Ukraine, 3 milliards d'euros. Est-ce que vous appelez ça de la rigueur, aujourd'hui, Agnès Benassi-Kerry, 10 milliards d'euros d'économies imprévues?
Bon, alors de la rigueur, enfin on coupe dans les dépenses, la rigueur ça laisse penser que c'est quelque chose de permanent qui va s'étaler sur plusieurs dizaines d'années.
C'est 83, Mauroy, le spectre du...
Voilà, on est dans une période où il y a encore de l'inflation, où il y a encore des tensions sur l'appareil productif, même si l'activité ralentit très, très nettement. Donc c'est pas absurde d'accentuer temporairement, hein, et de retirer en particulier... les dépenses qui étaient exceptionnelles.
Bon, maintenant, le chèque carburant, c'était exceptionnel. C'était éventuellement, mais exceptionnel.
C'est exceptionnel. Le prix du carburant est revenu à un niveau moyen des précédentes années. En plus, les ménages modestes voient les transferts sociaux, le SMIC, qui sont indexés sur l'inflation. qui comprend le prix du carburant. Donc, les raisons de maintenir ça ont vraiment disparu. Après, il faut replacer 10 milliards d'euros, c'est 0,4 points de PIB. C'est pas non plus... Oui. Ça suffit pas du tout.
Pour, on a 1300 milliards d'euros de dépenses publiques.
Hein. Voilà. Donc, il y a la nécessité de, d'engager donc un ajustement budgétaire graduel pour pas mettre l'activité dans le négatif, mais de l'engager néanmoins avec une perspective crédible sur le moyen terme, parce que avant la prochaine crise, n'est-ce pas, il faut récupérer des marges de manœuvre.
Alors certains disent qu'on fait ça dans l'urgence parce qu'il faut éviter d'inquiéter les agences de notation à très court terme, et qu'il y a tension de ne pas appuyer trop sur le frein, de ne pas mener une politique trop pro-cyclique, qui aurait parfois tendance, comme on a pu le voir, notamment en 2010, 2011, 2012, avec le cas grec et la crise de la dette de la zone euro, tendance quelquefois à être un accélérateur de ralentissement.
Oui, mais alors, quand on compare avec les autres pays européens, on est quand même très en retard sur l'ajustement budgétaire. Donc,
voilà. C'est vrai qu'on a quand même 6 pays aujourd'hui de la zone euro qui sont en excédent aujourd'hui. Votre vision du mot rigueur, austérité, Sylvie Matera?
Non, je trouve pas que ça soit de la rigueur. Là, en plus, ça a été, c'est un ajustement, puisque en fait, le budget avait été calculé sur une prévision de croissance de 1,4%. On n'y sera pas. Les chiffres de la Banque de France ont été bien inférieurs à ça. Donc, on sera sans doute autour... La Banque de France disait 0,9.
Ouais, c'est plutôt 0,8-0,9, le compte.
Donc, en fait, c'est un ajustement sur un calcul de non plus 1,4% de croissance, mais sur 1%, qui reste encore un peu optimiste par rapport aux chiffres qu'on peut voir à droite et à gauche. Donc, en fait, ces 10 milliards, c'est un ajustement. C'est pas encore de la rigueur. Hein. C'est un ajustement. Mais par contre, c'est important pour une prise de conscience, parce que vous l'avez signalé, on est quand même un petit peu isolé par rapport aux autres pays européens, et il faut commencer à faire des efforts pour un petit peu rentrer dans les clous.
Rigueur aussi, Robin Rivaton, ça vous fait sourire.
Oui, parce que
personne ici n'a validé le terme, je vois.
J'ai exprimé ici mon opinion, c'est-à-dire qu'on est extrêmement en retard par rapport à nos partenaires européens. On a le pays qui a la croissance de la dette sur PIB la plus élevée. On a rattrapé tous les gens devant nous, qui étaient quand même le Portugal, l'Espagne. On a l'Italie dans la ligne de mire, quand même.
Portugal, il est en excédent. Là.
Mais des gens qui font des efforts sur la dette et sur le déficit. On a le déficit le plus élevé de la zone euro, et on est en train de se dire que 10 milliards d'augmentation des dépenses en moins, c'est quelque chose qui est de la rigueur. Je pense qu'on n'est pas du tout, encore une fois, à l'aune de ce qui va se passer en 2026-2027, où à un moment, et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'on soit obligé de prendre une politique totalement pro-cyclique, c'est-à-dire qu'on doit réduire les dépenses à un moment même
où la croissance
où le moteur économique aura ralenti de manière assez forte. Et je trouve que, encore une fois, le gouvernement devrait profiter de son crédit politique, en tout cas ce qu'il en reste aujourd'hui, pour être beaucoup plus agressif dès aujourd'hui, parce que ce qui va se passer en 2026-2027, ça va être de la croissance faible, voire négative, et des baisses de dépenses qu'il va falloir être, sur lesquelles il va falloir être beaucoup plus ambitieux. Donc, alors ce sera peut-être des hausses d'impôts, on parlera de TVA sociale tout à l'heure. Ma thèse depuis longtemps, c'est qu'on n'y échappera pas, mais je trouve qu'on n'est pas du tout à l'aune des enjeux.
Ouais. D'ailleurs, franchement, ce que martèle Bruno Le Maire depuis des mois, pas de hausse d'impôts, pas de hausse de taxes, pas de hausse d'impôts, pas de hausse de taxes. Ah, je sais pas, moi en 2024, je vois que la taxe sur le gaz naturel a doublé, que la taxe sur l'électricité augmente, que les taxes sur le tabac augmentent, qu'on a coupé le bonus écolo de 5 000 à 4 000 euros. Il y a des baisses de dépenses fiscales et des hausses objectives de taxes. Agnès Benassiké.
Il faut pas regarder par rapport à 2022, il faut regarder par rapport à 2019. Mais... parce que les taxes sur l'électricité avaient été drastiquement diminuées.
Voilà, j'admets que c'est un retour à la normale quand on parle du gaz et de l'électricité. Mais quand on décide de faire de la baisse de dépenses fiscales sur le bonus écologique, il y en a d'autres, là, elles ne me reviennent pas toutes en tête, c'est bien de l'argent qui devait aller quelque part et qui n'ira pas. Hein.
Oui, alors ce qu'a dit Robin, c'était intéressant de dire que c'était une baisse des dépenses. On n'en est pas encore dans la réduction, c'est-à-dire on dépense moins. Il y a un petit peu de marge quand même.
Qu'est-ce que vous appelleriez de la réduction?
C'est-à-dire couper, par exemple sur les 10 milliards, il y en a apparemment la moitié qui sont des dépenses en moins. C'est-à-dire on diminue la prime Rénov, mais elle continue quand même à augmenter par rapport à l'année dernière.
Elle augmente de 600 millions
d'euros. Elle augmentera moins. Il était prévu qu'elle augmente de 1,6 milliard, ça va augmenter que de 600 millions. Donc on n'est pas encore dans la réduction. Donc la moitié de ces 10 milliards, ça sera des dépenses, un peu moins de dépenses, mais on reste toujours dans la partie dépenses. En revanche, l'autre moitié, 5 milliards, ça sera, le ministre a annoncé que ça devrait être des réductions de dépenses, de fonctionnement de l'État. Ouais. Donc là, c'est plus compliqué. Mais il y a un moment, à force de couper les coûts, il y a un moment où on peut plus couper les coûts. Il faut envisager des restructurations plus profondes. Et donc là, je me demande s'il y a un moment où on a évoqué les contraintes administratives, il faudrait peut-être pas revenir, parce que toutes ces contraintes administratives que les gens critiquent sous le biais d'une trop grande bureaucratie, elles ont aussi un coût. Donc si on arrivait à résoudre un petit peu ces contraintes par moments excessives, peut-être qu'on arriverait à résoudre, à baisser les coûts. Et donc je pense que ça serait plus intéressant de s'engager dans cette voie, plutôt que de dire on retarde l'embauche de personnel supplémentaire, on empêche les gens de voyager. Enfin, ça, c'est vraiment des mesures qui sont, pour moi, qui ne sont pas du tout structurelles et qui ne sont pas très intéressantes.
On ne va pas faire le choc de simplification d'ici les décisions de Fitch, Moody's et Standard & Poor's. C'est trop court.
Donc. Non, mais il faut bien commencer un jour quand même.
J'entends, ça a été chiffré par le Sénat et déjà préalablement lors de la loi Pacte à 60 milliards d'euros par an, les coûts supplémentaires induits du fait de la complexité. Vous voyez que vous vouliez réagir, Agnès Benassi.
Oui, parce que le ministre a précisé que ce serait l'État qui ferait des efforts.
Oui.
Et à chaque fois, en fait, c'est l'État.
Oui, absolument.
Or, la France a des coûts de fonctionnement qui ne sont pas absurdes par rapport aux autres pays.
C'est totalement vrai.
Et là où c'est vraiment différent, c'est sur les transferts, en particulier les retraites, mais également ce qu'on appelle le millefeuille territorial et une certaine inefficacité de cet empilement. Et donc là aussi, il y a quand même un gisement, même si il y a des politiques qui coûtent très cher et qui sont moyennement efficaces, comme par exemple les politiques du logement. Mais on peut un peu gagner certainement sur l'efficacité. Mais enfin, cette idée qu'en réduisant les flottes de véhicules des administrations, on va résoudre l'équation budgétaire, je pense que c'est pas à la maille.
C'est pas effectivement en réduisant d'un degré la température et en évitant de changer un parc automobile qu'on fait 5 milliards d'euros sur les dépenses de fonctionnement des ministères. Le problème, Agnès, c'est qu'il n'avait pas le choix, parce qu'il ne veut pas agir par la loi pour ne pas avoir un 49-3. Donc c'est du décret d'annulation de crédit. Et on ne va pas, par décret d'annulation de crédit, aller sur le terrain des dépenses sociales ou des dépenses de collectivité.
Absolument. Et c'est, comme l'a dit Sylvie il y a un instant, c'est aussi montrer l'exemple, donner un signal. Et ce signal ne peut venir que du centre.
Mais c'est important de rappeler que la France n'a pas une dépense publique d'État totalement délirante par rapport aux autres pays. Voilà. C'est pas là que se fait la vraie différence de dépenses publiques.
Oui, si on regarde le nombre de fonctionnaires de l'État par rapport aux autres pays, rapporté à la population, ça n'a rien d'absurde. Là où les dépenses ont vraiment dérivé, c'est les collectivités territoriales. Une partie est due au transfert de responsabilité, mais pas uniquement, en fait.
Et surtout, effectivement, tu l'as évoqué, c'est l'empilement. C'est-à-dire on a différentes strates de collectivités locales qui font peut-être plus sens aujourd'hui. Je pense qu'il faut plutôt... Alors, c'est vrai que ça prend du temps, mais il faudra bien commencer un jour. Il faut quand même réfléchir à regarder cette structure de dépenses dans le dur, enfin de manière structurelle, et pas en faisant des mesurettes qui sont assez peu efficaces en fait.
Les impôts de production restent le boulet du Made in France. C'est la conclusion d'un rapport de l'Institut Montaigne. Vous avez regardé ça, Agnès Benassi-Kiré. Enfin, on peut commencer par Robin, si vous voulez. Il n'a pas parlé depuis longtemps, Robin. On a baissé les impôts de production. On n'a pas totalement supprimé la C3S. Alors, c'est compliqué, ces impôts de production. D'abord, c'est compliqué parce que François Eckel m'a appris un truc. Pour moi, les impôts de production, c'était les impôts qui tapaient les entreprises sur la production, alors que ce soit le chiffre d'affaires ou la masse salariale. Évidemment, chaque impôt n'est pas forcément sur la même base. Mais j'ai appris qu'il y avait des impôts de production qui ne concernent pas les entreprises et qui sont catalogués impôts de production. La taxe foncière est un impôt de production, par exemple. Et c'est pour ça qu'on arrive à plus de 100 milliards d'euros d'impôts de production, mais ceux concernant vraiment les entreprises sont heureusement encore inférieurs à 100 milliards d'euros. On a l'impression qu'on les a baissés. L'Institut Montaigne dit, quand vous regardez par rapport au PIB, en fait, c'est des niveaux encore très élevés. Donc on est très 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 loin du compte, on n'arrive pas encore une fois à agir avec efficacité, c'est désespérant. Quoi.
Non mais on a agi, au sens où si on les avait laissés dans leur formule actuelle, ils auraient monté, parce qu'ils ont des mécanismes de dynamisme du calcul qui fait qu'ils auraient augmenté. Donc on a joué à leur maintien, donc c'est déjà mieux que rien. Il faut savoir quand même apprécier quand il y a un soutien à la politique de l'offre. J'ai aussi tendance à croire que ça fait 12 ans qu'on suit la politique de l'offre dans ce pays, ça a produit des résultats. C'est quand même une des rares politiques qu'on a suivies de manière dans la durée et ça produit ses effets. C'est le béaba de la politique publique, c'est que si on arrive à tenir des politiques publiques, même si elles ne sont pas super ambitieuses, mais qu'on les tient dans la durée, ça produit des effets. Et donc là, sur le tissu productif, on a créé plus d'emplois, on a créé plus d'investissements, les entreprises se sont maintenues. C'est pas la folie. C'est mieux que rien. Et donc, on doit mettre quand même les efforts sur les impôts de production dans ce cadre-là. Est-ce qu'on aurait pu aller plus loin ? Peut-être, sans doute. Voilà, en tant que chef d'entreprise, j'aimerais qu'on soit allé plus loin. Après, les marges de manœuvre sont ce qu'elles sont. On vient de le dire. On n'est pas capable de faire des réformes structurelles dans ce pays. Et d'ailleurs, tout a été abandonné. On parlait de la réforme du millefeuille territorial, de plus d'efficacité. Cap 2022.
On est en 24. Hein, bon.
Ça semble quelque chose de très très loin désormais. Donc on voit bien qu'il n'y a plus aucune ambition de réformer structurellement les choses. Donc il n'y a pas de marge de manœuvre financière. Et donc dans ce cadre-là, estimer qu'on va tout d'un coup faire disparaître les impôts de production. Et après, c'est un autre sujet qui n'est pas totalement anecdotique sur les impôts de production quand même, c'est que c'était des ressources propres des collectivités. Et moi, j'entends le point de vue... Les collectivités...
Je vois venir.
Les collectivités ont une partie de la responsabilité de l'augmentation des dépenses publiques, certes. Mais le problème, c'est que si vous en faites des auxiliaires de l'État central et vous ne créez pas de la concurrence institutionnelle entre les collectivités, vous allez droit dans le mur. La seule solution pour que ce pays, à un moment, s'en sorte un peu, c'est de créer de la concurrence institutionnelle. C'est-à-dire que entre...
C'est pas de la concurrence institutionnelle.
C'est que vous avez deux personnes, deux collectivités qui ont des pouvoirs, donc qui leur permettent d'avoir des trajectoires, de décider les choses, et qu'il y en a une qui réussisse mieux que l'autre. Et donc les gens aujourd'hui votent avec leurs pieds, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand vous aurez une commune qui est mal gérée et inversement une commune qui est bien gérée, les gens préféreront aller dans la commune qui est bien gérée. Et le problème, c'est qu'on a depuis maintenant, on va dire 15 à 20 ans, totalement, au moins une dizaine d'années, anesthésié les collectivités territoriales en leur disant vous êtes des piètres gestionnaires, on vous enlève des ressources propres. Et oui, ok, il y a plein de collectivités qui sont mal gérées, il y a des collectivités qui sont bien gérées, et si on leur enlève toutes les ressources propres, à la fin, elles n'ont pas grand-chose à faire.
Bon, Agnès Benassi-Kiré, un peu de production, vous voyez comment l'histoire, on en a pris la bonne direction, le rythme n'est pas forcément celui qu'on aurait souhaité, mais au moins on se tient à quelque chose d'à peu près constant et d'à peu près stable.
Alors effectivement, il y a eu un choix de réduction des impôts de production qui était vraiment différent des autres pays, qui nous handicapait en termes d'attractivité.
Et vous parlez à l'imparfait, comme si c'était fait.
Alors, une partie a été faite, la CVAE, la baisse de la CVAE. Ce qui me gêne avec le concept d'impôt de production, c'est qu'on mélange des choses qui n'ont pas grand-chose à voir. Par exemple, la taxe sur les salaires qui touche le secteur financier, qui n'est pas assujetti à la TVA, donc cette espèce d'équivalent n'est pas vraiment distorsif. On pourrait penser aussi aux taxes foncières que vous citiez. Les taxes foncières, les économistes aiment assez parce que ça permet de taxer une rente. Et taxer une rente, ça n'a pas d'effet négatif sur l'activité. Pensez à une rente de localisation. Par exemple, une entreprise qui se trouve être au milieu d'un réseau autoroutier qui a été construit sur fonds publics ou à côté d'un monument historique qui attire du tourisme. Vous voyez, et donc il y a une rente de localisation qui, elle, peut être taxé.
Il ne s'agit pas d'arriver à zéro, mais zéro et les quelques 60 milliards qui restent chez nous.
Alors, ce que les économistes n'aiment pas du tout, c'est ce qu'on appelle la C3S, une contribution sociale, parce qu'elle touche. L'assiette, c'est le chiffre d'affaires. Et donc, il y a des effets en cascade ça a été très bien montré par le Conseil d'analyse économique, par exemple.
Il y a longtemps déjà.
Il y a longtemps, mais c'est toujours vrai.
Il n'a pas été suivi.
C'est toujours vrai.
C'est François Hollande qui a commencé à la baisser.
Ça handicape très sérieusement la compétitivité des entreprises françaises. Il y a encore du chemin à faire, mais une partie du chemin a été faite. Quant à la relation avec la gestion locale, je suis assez d'accord, mais ce n'est pas simplement les entreprises, c'est aussi les ménages. La disparition de la taxe d'habitation qui a rompu un peu le lien entre...
Si vous lancez Robin Rivaton, la disparition de la taxe d'habitation, on est parfaitement d'accord là-dessus. Non, mais c'est vrai qu'elles ne sont pas toutes pareilles. Ces impôts de production ne sont pas tous les mêmes, n'ont pas tous la même assiette. Mais donc, on a quand même fait des progrès. Voilà,
il n'en reste pas moins qu'elles restent quand même... C'est vrai que c'est difficile de comparer d'un pays à un autre parce que les définitions sont différentes.
Oui,
néanmoins, la France reste très au-dessus de ses partenaires européens. Quand on prend l'analyse à laquelle vous faisiez allusion, mais la France a un niveau de 4 à peu près. Et quand on regarde l'Allemagne, ils sont en dessous de 1. Donc l'Allemagne, c'est quand même notre principal partenaire. Donc le coût que supportent les entreprises est bien plus élevé en France qu'en Allemagne. Donc là, même si les définitions ne sont pas identiques, je suis entièrement d'accord, il y a quand même un sujet.